Marc Menon sur Europe 1.
Nous sommes avec Bernard Toinel, le rédacteur en chef du VSD hors série, en kiosque depuis quelques jours. OVNI, rapports officiels. Alors ce cas, un véritable scoop, hein, c'est l'un des scoops, je dirais, parce qu'il y en a... c'est formidable d'arriver à être aussi tenace et d'estorquer d'une certaine manière des informations que les gouvernements ou les armées ici et là ont tendance à maintenir sous le coude.
Oh, estorquer est un bien grand mot, parce que je pense...
Non, quand je dis estorquer, c'est parce que on vous les donne pas aussi facilement que ça.
Oh, écoutez, je vais vous dire, pour celui qui se donne la peine de chercher, justement, je crois que au contraire, l'information est disponible. Il n'y a pas le grand secret. Le grand secret, c'est inventé par les ufologues. Le grand secret, il est simplement, si vous voulez, tout à fait relatif. Il suffit simplement de faire des recherches. Les archives sont disponibles. Aux États-Unis, les archives Blue Book sont disponibles. Vous avez près de 200 000 pages de rapports extrêmement détaillés. Et je crois qu'il suffit simplement de lire ces rapports.
Oui, d'accord. Mais pour autant, cette histoire chilienne 2001, personne n'en avait jamais parlé. C'est la première fois sur des ondes qu'il y a cet écho. Et puis que nous pouvons lire ça dans le VSD hors série.
Et voir, puisque nous avons aussi des photos.
Bon, alors, 2001, c'est pas si vieux.
Non.
Y a-t-il d'autres phénomènes dans les derniers mois, c'est-à-dire entre 2001 et aujourd'hui, et sinon dans les 5 dernières années, hors ce cas au Chili?
Bah écoutez, déjà, je crois que demain, 24 juin, il y aura, je crois, ça sera le 55e anniversaire de la première, je dirais, rencontre aéronautique, puisqu'il s'agissait donc de Kenneth Arnold et de sa première, de sa première observation. Et ça, en fait, ça a été le grand début des observations aéronautiques. Après quoi, oui, il y a bien sûr d'autres cas dont nous parlons dans notre numéro. Il y a des cas, je dirais, anciens, qui datent de 1952.
Non, mais ça, on va en traiter certains. Simplement, je voudrais savoir si ce cas de 2001, c'est soudain le retour des ovnis, alors que depuis un certain temps, il n'y avait plus d'éléments nous permettant d'accréditer cette frénésie d'éléments non identifiés.
Non, pas du tout. Je crois que ça n'a jamais cessé. Il y a, si vous voulez, un phénomène de vague localisé dans le monde. C'est vrai qu'on voit des fois plus en Afghanistan. Il y a eu une vague au-dessus de l'Afghanistan avant les événements. Il y a eu une vague au-dessus de l'Inde. Il y a eu une vague...
Mais alors là, regardez, vous donnez des terres où, disons, potentiellement, puisque l'Afghanistan, les Américains s'y intéressaient, l'Inde, on sait tous les troubles qui l'opposent au Pakistan, on pourrait penser que ce ne soit donc que des observations militaires, non déclarées bien évidemment, et qui seraient imputables, soit aux Américains en l'occurrence, soit aux Soviétiques, soit pourquoi pas à une autre puissance qui disposerait de moyens dont on n'aurait pas connaissance. On pourrait penser aussi aux Chinois, pourquoi pas.
Oui, bah écoutez, ça serait formidable pour eux, mais je pense pas qu'ils en soient à ce point-là. Mais enfin, en tout cas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne s'agit pas d'un phénomène extraterrestre. Il s'agit d'observations qui ne correspondent pas donc au schéma connu, aux connaissances aéronautiques connues des équipages. Donc les pilotes réagissent effectivement en fonction de ce facteur inconnu. Alors, comment réagir face à, aux ovnis? C'est ça le problème.
Alors, Bernard Toinel, dans les débris qui ont été retrouvés ici et là, que l'on dit appartenir à ces objets non identifiés, a-t-on repéré éventuellement des éléments qui nous laissent pantois et qui ne permettent pas de comprendre ou leur constitution ou la manière dont ils auraient été fabriqués?
Si vous voulez, au terme de 5 ans d'enquête au sein du complexe militaire ou industriel américain, c'est ce que j'ai pu rencontrer donc des gens qui ont travaillé la question et qui m'ont dit de manière très honnête, et je dirais même hors off record comme on dit, et qui m'ont bien spécifié que ce qu'ils avaient récupéré n'était en rien quelque chose qui ne pouvait pas être conçu sur Terre. Donc ça c'est clair. Je crois que la seule différence qu'il y avait, c'était le degré de pureté des matériaux.
Mais alors ce degré de pureté, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, si je vous ai bien compris, la composition est une composition que nous pourrions nous-mêmes, enfin dans les technologies des pays les plus avancés, envisager, mais pour autant il y aurait une sorte de secret de fabrication que les dites technologies ne posséderaient pas.
Tout à fait.
Donc ça pose quand même une sacrée interrogation.
Ça pose une sacrée interrogation, mais ça ne dit pas pour autant l'origine de ces matériaux. Et ça peut provenir de météorites, ça peut provenir de n'importe quoi. Donc si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous retrouvez une boîte de conserve dans votre jardin, vous savez que c'est une boîte de cassoulet, mais vous n'avez pas la marque de fabrique. Donc il n'y a pas, si vous voulez, d'origine...
Non, mais on pourrait se retrouver devant une boîte de conserve.
Oui.
Alors on dirait, bah oui, apparemment, c'est indubitable, c'est une boîte de conserve. Alors comment ils ont pu fabriquer ça? Parce que nous, avec les moyens dont on dispose, on n'aurait jamais pu lui donner cette forme-là, où ça pourrait pas être un matériau aussi pur que ça.
Je pense que c'est un peu les interrogations qu'ils ont, mais ils n'ont pas la réponse. Ils n'ont que, si vous voulez, que des pièces de puzzle qui peuvent assembler. Ils ont des photos, ils ont des données radar, ils ont des tas de choses. C'est vrai que lorsqu'on discute avec tous les gens qui continuent de toute façon d'enquêter sur les ovnis aux États-Unis, tant sur le plan militaire, mais ça ne constitue pas une priorité. Il faut bien comprendre. Lorsque les Américains ont passé quand même 22 ans à étudier le phénomène entre 47 et 69, ils ont accumulé, je crois, 16 000 dossiers. Sur ces 16 000 dossiers, ils ont considéré que 700 étaient à peu près, authentiques. C'est-à-dire on ne pouvait pas attribuer une origine naturelle au phénomène. Si on regarde d'un peu plus près ces archives, on s'aperçoit, alors c'est ce qu'on a fait avec des chercheurs, des amis chercheurs américains, on a trouvé en fait qu'il s'agirait de 2000 cas. C'est quand même énorme.
Ah oui, 2000 cas. Même il y en aurait que 10, même je dirais un seul qui soit inexplicable. Oui. Mais une telle énigme que il faudrait s'y intéresser, parce que l'homme n'est pas allé 50 000 fois sur la Lune, mais s'il y avait des luniens, si je puis dire, la seule fois, elle suffit.
Oui, hein, c'est vrai.
Alors, il y a aussi ce qui est formidable dans les dossiers tels que vous les exposez dans ces VSD hors série, et ce dernier là qui vient de sortir, c'est le nombre de pilotes, donc de gens qui sont des militaires, oui, avec le sérieux que cela suppose, et pas des petits militaires. Il y a un moment donné, un pilote de chasse de l'aviation américaine qui a pris contact avec vous.
Oui, tout à fait. Un beau jour, j'ai reçu sur mon courrier électronique, j'ai reçu une lettre d'un certain, je peux le donner son nom d'ailleurs, il s'agit de Milton Torres, qui est un docteur et qui, en fait, dans le civil, maintenant parce qu'il est dans le civil, c'est un monsieur qui a à peu près 71 ans. Et il m'a contacté parce qu'il avait vu circuler un ancien numéro de VSD hors série qui était paru, je crois, en 99 ou 98.
Ah, vous êtes même lu aux États-Unis?
C'est-à-dire, oui, parce qu'on est la seule. Il faut bien comprendre qu'on est le seul magazine grand public en vente dans le monde.
Oui, mais alors là, en l'occurrence, il y a un problème de traduction, non?
Oh, vous savez, je crois qu'il y a tellement la foule parmi les titres que je crois que ça circule tellement. Non, on est tellement rare que finalement, même en français, on regarde pour les photos. De toute façon, ça intéresse tout le monde. Bien évidemment que si un journal français, ma foi, est performant, on va faire abstraction de la langue.
Alors donc, ce pilote, il prend contact avec vous, il vous raconte quoi?
Alors, ce pilote m'a dit, voilà.
Ça figure dans sa VSD, bien évidemment.
Ça figure en détail dans ce VSD. Il m'a dit, voilà, on m'a chargé d'abattre un ovni. J'étais en vol enfin, j'étais même en alerte ce jour-là, en Grande-Bretagne. C'était un pilote d'un Sabre. Alors, le Sabre, en gros, c'était un avion de chasse tout temps. Et c'était le nec plus ultra des avions de chasse à l'époque. Donc, ce jeune lieutenant, qui était un jeune lieutenant de 26 ans, on l'a chargé de décoller avec son leader, c'est-à-dire son commandant de patrouille, son chef de patrouille, pardon, aller intercepter quelque chose. Et on leur a donné, en fait, les paramètres en vol. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient intercepter. C'était véritablement une mission opérationnelle, puisqu'on leur a demandé tout de suite d'armer leur avion. Et là, je dois dire que le pilote m'a dit, je me suis trouvé dans la situation où, passez-moi l'expression, il faisait littéralement dans son pantalon. Il me l'a dit. Et il m'a dit, en plus, ce soir-là, ils ont un temps de chien, on était dans la crasse, on voyait rien, je ne voyais que mon écran radar, il fallait que je fasse tout, que il pilotait un petit peu comme un unijambiste, il y avait des tas de boutons à appuyer, enfin, c'était véritablement très, très difficile, c'était très stressant.
Et alors, que se passe-t-il?
Eh bien, donc, on le dirige vers un endroit donné. Il avait donc décollé de la base de Manston au sud-est de l'Angleterre et se dirigeait donc sur un point en mer du Nord. Qu'est-ce qui se passe? Alors on lui dit, maintenant vous allez accrocher votre objectif. Et effectivement, il a un objectif qui est accroché sur son radar, mais pas un objectif normal. Ça lui tenait, toute la partie supérieure du scope radar. Ça veut dire que c'était très gros. Et alors là, comme il me dit, c'était comme l'écho d'un B-52. Alors, vous imaginez les dimensions d'un B-52, il dit, c'était ça, mais alors, c'était pile poil. Et j'ai jamais eu aucun problème pour verrouiller ma cible. C'était le plus facile que j'ai eu à poursuivre. Parce que alors là, ça s'est pile poil, ça s'est mis automatiquement, et j'étais prêt à lancer 24 roquettes, d'ailleurs c'est ce qui lui a été demandé de faire, de lancer 24 roquettes. Or, il faut savoir que les roquettes à l'époque n'étaient pas des roquettes guidées, des missiles guidés comme nous avons à l'heure actuelle, mais donc non guidées. Et qu'une roquette était capable de détruire un bombardier, je dirais, comme une super forteresse.
Alors, que se passe-t-il? Parce que là, vous avez le sens de la narration.
Absolument.
On est avec le pilote, on imagine l'avion qui a beaucoup de mal dans une véritable stabilité, lui qui a une tension extrême qui
en
monte.
En
hein, pof, il se fie uniquement à son radar, il va appuyer sur le bouton, envoyer 24 roquettes, et il se dit que c'est peut-être un B-52, ça va faire une explosion inouïe.
Un B-52 ou un bombardier russe.
On est d'accord. Voilà. Et alors?
Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'au moment, il était à 10 secondes du tir, donc il y a un décompte automatique qui se déroule à l'époque, c'était ce qui se passait, et au moment de lancer ces roquettes, à 5 secondes, la cible s'éloigne à une vitesse
faramineuse
d'un seul coup et disparaît du scope comme s'il n'y avait rien eu.
Et il est revenu sur sa base aérienne, il a raconté ça je pense à ses supérieurs, et alors que c'était passé.
C'était pire que ça, il a été convoqué tout de suite avec son chef de patrouille, et comme lui avait eu manifestement une position privilégiée par rapport à son ailier, parce qu'ils étaient deux, lui a été convoqué tout de suite, et jeune lieutenant, il était vraiment très... Parce que vous savez, c'est quand même quelque chose de très stressant, il a été convoqué tout de suite par son commandant d'escadron, qui lui a dit « Tu ne parles pas du tout de cette mission, elle n'a jamais existé, c'est classifié. » Alors là, Bon, il rencontre les contrôleurs, parce que bien sûr tout le monde se connaît sur la base. Il parle avec le contrôleur, il lui dit « Mais alors qu'est-ce que tu m'as fait poursuivre ?» Il dit « Écoute, je peux pas te dire, mais tout ce que je veux te dire, on avait exactement les mêmes échos sur nos radars, donc il y avait une corroboration, si vous voulez, une redondance entre les systèmes de radars, donc c'était quelque chose qui était manifestement réel. Et à ce moment-là, il se passe la chose suivante, c'est que il y a un homme en civil qui était dans le couloir, il y a un sergent qui vient le chercher, costume cravate, trench coat, vous savez, un petit peu le genre d'X-Files, pas Men in Black, hein. Mais un peu dans le genre. Et donc débriefing, le gars lui pose des questions, pas très poli, pas très aimable. Je lui dis voilà, qu'est-ce qui s'est passé, dites-moi tout. Bon alors maintenant on tient à vous prévenir, cette affaire n'a jamais existé. Si vous parlez quoi que ce soit, votre carrière est fichue, et croyez-moi, vous aurez beaucoup de problèmes.
Alors quand on entend ça, on se dit oui, mais c'est donc le monde du leurre, on cherche toujours à tromper le peuple, que veut-on nous cacher, etc. Est-ce que ça s'explique? Est-ce qu'il est logique d'avoir un tel comportement? Est-ce qu'on peut se dire que les autorités, en l'occurrence, ne veulent pas le silence pour le silence, mais simplement elles ont la crainte d'être déconsidérées car elles n'ont pas pu répondre à une mission?
Voilà, exactement. Je crois que vous avez mis... En fait, le grand secret, c'est pas le fait de dissimuler qu'il y a des ovnis ou pas, que nous sommes seuls ou pas seuls. Le problème n'est pas là. Je crois que c'est surtout l'aveu d'impuissance.
Voilà, c'est ça.
Et ça, aucun militaire au monde... Même en France, parce qu'on parle du secret américain. Pourquoi on parle du secret américain? On dit oui, les Américains cachent des choses. Mais moi, je vais renvoyer un petit peu l'ascenseur. Est-ce que les Français ne cachent pas des choses?
Alors, il y a un cas, là. C'est 1951 qui apparaît dans votre livre. Enfin, dans votre VSD en série.
VSD.
Oui, parce que... Mais non, mais il y a votre livre aussi.
Ah,
parce
oui,
que,
oui,
hein,
oui.
Aventure dans le ciel, 35 histoires extraordinaires. Ouais. Et c'est aux éditions Altipresse, Bernard Poinel. Donc.
Oui. Hein,
bah, c'est bien de le dire aussi.
Oui,
alors, 1951.
Il n'y a pas d'ovni dedans.
D'accord. Alors, 1951.
Alors, 1951, c'est le premier rapport officiel d'enquête de l'armée de l'air en France, et par là même le premier rapport officiel qui a été donc divulgué il y a très peu de temps, que nous avons la primeur de publier dans son intégralité dans le numéro de VSD. Alors c'est un peu la même chose, mais je dirais ce sont des avions de l'armée de l'air qui étaient en patrouille au-dessus de la base d'Orange, qui ont été amenés également à essayer de poursuivre un disque volant qu'ils ont vu, qu'ils ont aperçu et qui les a les laissés sur place.
Alors là encore, au-delà du phénomène visuel, y a-t-il des éléments tangibles ou, disons, des points que l'on a pu ensuite classer dans un dossier, soit des photographies, soit d'autres témoignages qui seraient venus du sol pour démontrer qu'il y avait quand même, au-delà de la vision du pilote, un phénomène qui se déroulait?
Non, malheureusement, pas sur ce cas-là. Pas sur ce cas-là, et c'est ce qui a d'ailleurs été donné dans le compte-rendu du GEPAN, parce que cette enquête a été...
Le GEPAN
le GEPAN, le groupement d'enquête des phénomènes aérospatiaux non identifiés,
qui avait été créé
en 1977, avec Alain Poher à sa direction, et maintenant qui s'appelle le CEPRA, qui est dirigé par Jean-Jacques Velasco.
Alors il y a aussi une histoire extraordinaire qui apparaît, mais enfin quand je dis une histoire extraordinaire, j'ai l'impression que... Non, il n'y a que ça.
Oui.
Il y a ce cas du B-52 américain. Alors là, c'est complètement fou aussi.
Alors ce cas...
On est en quelle année là?
En octobre 1968, la commission Blue Book existait toujours, et nous étions... Alors il faut un petit peu rappeler le contexte, la guerre du Vietnam, avec tout ce qui avait été entraîné comme, problème politique, pacifiques, démonstrations, émeutes, et puis en plus la guerre froide. Donc on en était, si vous voulez, à un point où on avait d'un côté les Russes, on avait donc tout ce rideau de fer, et puis stratégiquement parlant, c'était un peu Docteur Follamour, quoi, je dirais. Donc ce soir-là, octobre 1968, on en était la énième observation d'OVNI sur la base de Minot, qui est une des plus grandes bases stratégiques de l'US Air Force, donc qui s'occupe en fait de la défense nord du continent nord-américain.
Donc là, Bernard Touanel, on peut se dire, ce sont tout simplement les Soviétiques qui disposent de moyens technologiques extrêmement avancés dont nous n'avons pas la connaissance en Occident et qui viennent observer un point qui est essentiel dans le contexte militaire que vous venez de nous rapporter.
Oui, à répétition. Parce que depuis 1948, je dirais que ça n'a jamais cessé.
Oui, alors on pourrait se dire aussi, parce que quand on fait référence ensuite à l'histoire des fusées soviétiques, 1957, le bricolage, je dirais, qui conduit Gagarine dans l'espace, etc. Avec des engins comme ça, on aurait du mal. Sputnik, voilà, c'est ça. Sputnik, c'est 57. Mm-hmm. Et puis Gagarine en 61, mais en 61, c'est un tracteur, la fusée, quoi.
Ouais, ouais.
Donc elle n'aurait pas les moyens d'intriguer et de venir comme ça rôder sur les sites
nucléaire. C'est-à-dire, en fait, tous les sites qui concernent la défense stratégique des États-Unis et qui concernent la sécurité nationale. Donc, on a toujours dit, et les Américains ont toujours dit dans le projet Blue Book, que, en fait, le phénomène OVNI ne relevait pas de la sécurité nationale, et ça, je crois que c'était pas très vrai. Et cette nuit d'octobre 68, je crois, était décisive pour prendre une décision définitive concernant Blue Book, c'est-à-dire, on arrête, parce que on n'arrive plus à gérer ce problème. Il ne faut absolument pas que cette question d'OVNI, défense stratégique nucléaire, puisse parvenir au public et surtout à l'adversaire.
D'accord, mais donc, l'adversaire, en l'occurrence, ce sont les Soviétiques, et on estime, si c'était les Soviétiques qui disposaient de moyens d'observation, il n'y aurait pas à craindre quoi que ce soit, il y aurait juste à craindre ces moyens d'observation en tant que tels.
Oui,
tandis que là, si on craint qu'ils décèlent chez nous une faiblesse, ça prouve que ce ne sont pas les Soviétiques qui sont l'auteur de la chose.
Voilà, et ce cas d'octobre 68, malheureusement, que nous ne relentons pas dans notre numéro, mais que nous allons relater prochainement, ce cas a été décisif parce qu'il y a eu atterrissage en plein milieu d'un site de missiles.
Alors, racontons tout cela.
Oui.
Alors, donc, on est en 1952, on est sur cette base.
Non, en octobre 68.
les dates, je suis pas bon aujourd'hui. Alors.
En octobre 1968, c'est un soir, donc, on était quand même dans un climat particulier, parce que c'était pas la première fois qu'on voyait des ovnis qui se baladaient au-dessus des sites, au-dessus des bases. Et Minot était manifestement une cible privilégiée. Et là, ce soir-là, c'est, je dirais, le cocotier, parce que on a un B-52 en vol. Vol de nuit, d'entraînement, avec un équipage de 8 hommes. Bon, entraînement tout à fait banal, normal. Et apparaît là un ovni, dans sa splendeur, détectable par radar. Alors tout de suite, allez savoir ce que c'est. Qu'est-ce qui se balade au-dessus de nos sites de missiles. Donc on envoie ce bombardier. Et puis là, le chasseur devient la cible. C'est-à-dire que le bombardier, en fait, se retrouve poursuivi par l'ovni. Alors qu'il poursuivait, en fait, l'OVNI au départ.
C'est-à-dire que ça signifie que l'objet en question se met à la poursuite et donc il est extrêmement manœuvrant.
Absolument. Et il est tellement manœuvrant qu'il est accéléré à plusieurs milliers de kilomètres heure. Et un des radaristes a dit, on va se le prendre en pleine poire et tout le monde s'est quasiment préparé à s'éjecter. On était très près de l'éjecter. Et juste à quelques secondes, je dirais, de l'impact, l'objet, comme par enchantement, s'est arrêté. Il s'est mis derrière le B-52, à bonne distance, je dirais à quelques dizaines de mètres, et puis il est resté là. Et puis, au bout d'un certain moment, il a disparu. Il est parti de son côté, ils l'ont plus vu au radar, ils ne savaient plus où il était.
Alors là encore, un tel comportement, il y a des professionnels, non, ce n'est pas des amateurs,
non.
Sur un site extrêmement sensible, ce sont des gens très entraînés, qui ne sont pas fatigués, qui donc ont une capacité d'observation, tout ce qu'ils décrivent, on ne peut en aucun cas le mettre en doute.
Absolument.
Et donc, ça correspond en l'occurrence à un objet qui serait piloté, car on ne voit pas un engin seul, automatique, prendre de telles initiatives.
C'est ce que les Américains, les militaires américains, qualifient de trajectoire intelligente.